Et on commence par un enregistrement, c'est tout simplement le directeur des correspondances, Olivier Chaudançon, qui n'a pas pu être des nôtres pour cause de festival, vous vous en doutez, et qui nous présente le programme du jour.
Aujourd'hui, aux correspondances.
Au programme de ce vendredi, une journée très chargée. On commence dès le matin à 10h30 pour une rencontre en direction des ados avec Laurent Corvezier, illustrateur, et Ahmed Kaloaz. Et puis à 11h, le traditionnel apéro littéraire qui recevra deux écrivains, Serge Joncourt d'une part pour l'écrivain national et Valérie Zenati. À 14h, nous reprenons une des nouveautés de l'année dernière qui était le battle littéraire. Alors le battle littéraire, ça consiste à demander à des jeunes, à des scolaires, de préparer une petite intervention où ils essayent de convaincre le public de l'intérêt d'un livre qu'ils ont lu. Voilà, donc c'est à celui qui aura le talent de donner le plus fort désir de lecture par rapport au livre qu'il sera venu défendre sur scène. Et puis dans l'après-midi, pas mal de rendez-vous. À 15h, Jean-Hubert Yaillot et Cécile Vachebrot. À 15h également, Laurent Corvezier. Et puis la sieste littéraire avec nos amis musiciens et écrivains pour cette séance d'écoute allongée dans la pénombre. Rendez-vous qui est devenu incontournable pour les correspondances. À 16h30, nous recevons un des grands habitués du festival, Olivier Adam, pour son dernier roman qui se nomme Peine perdue et qui raconte un peu le désarroi contemporain, le fait que les difficultés économiques, sociales déstabilisent beaucoup de vies. Son roman se passe au bord de la mer, sur la Côte d'Azur, et je trouve qu'il traverse bien la société d'aujourd'hui dans ses difficultés. Et c'est pour ça qu'on a voulu aussi le faire dialoguer avec Simonetta Greggio, qui fait d'une façon différente, mais un peu de même, qui ausculte la société contemporaine en Italie. Voilà, donc il y aura un dialogue, à mon avis, très intéressant entre ces deux auteurs. À la même heure, nous avons Christine Montalbetti et Caroline de Mulder, qui, elles, ont délibérément choisi de situer leur livre aux États-Unis, donc on est très loin. Caroline de Mulder autour de la figure d'Elvis Presley, et Christine Montalbetti dans un récit plus mystérieux où un personnage atterrit au fin fond des États-Unis et côtoie un bar où elle va rencontrer pas mal de gens un peu étranges dont la vie est, on ne sait pas trop, fait aussi d'expédients, de difficultés, de chômage, donc ça n'arrive pas qu'en France. Deux romans vraiment intéressants sur cette façon d'aborder les États-Unis aujourd'hui. À la même heure toujours, 16h30, Antoine Volodine, l'un des auteurs français les plus importants, qui construit une œuvre hors norme, à part. Il a créé à lui tout seul un mouvement littéraire qui s'appelle le post-exotisme. Il écrit à travers différents noms, Antoine Volodine et puis d'autres noms, parce que ce mouvement littéraire est composé de plusieurs auteurs, si ce n'est qu'il n'y a qu'un seul qui tient la plume, c'est Antoine Volodine. Et puis Olivia Rosendahl, habituée du festival également, qui viendra pour une performance dans la petite salle du théâtre. Un peu plus tard, à 18h, nous rencontrerons Sylvain Prudhomme pour son très beau livre qui se nomme « Les Grands » et Éric Vuillard qui a fait une sorte de récit autour de la figure de Buffalo Bill. À la même heure, un plateau qui aborde de plein pied l'Afrique avec Gauze. C'est un premier roman, un des meilleurs premiers romans de cette rentrée littéraire. Un premier roman qui raconte un peu la communauté des Ivoiriens à Paris qui se partagent les emplois de vigile dans les grands magasins. Et donc il y a à la fois l'explication de la vie de cette communauté, vie qui n'est pas toujours facile parce que ce sont des petits boulots, des difficultés pour trouver un logement, et puis beaucoup d'humour dans ce livre parce qu'il y a aussi un regard sur les voleurs et voleuses des grands magasins, comment ils s'y prennent, leur maladresse, etc. Voilà, donc c'est un curieux livre, très très attachant. Et aux côtés de Gauze, donc Liv Joris, qui lui s'intéressera au commerce en Afrique. Toujours à la même heure, Christian Garcin, et puis également Maïlys de Kerangal, là aussi une des grandes habituées du festival, pour un des plus beaux livres de l'année qui se nomme « Réparer les vivants ». Et puis à 18h30, dans la grande salle du théâtre, Pascal Quignard, qui viendra faire une lecture de son dernier livre qui se nomme « Mourir de pensée ». La soirée se poursuivra au théâtre Jean le Bleu avec quelque chose qui, je pense, sera un des événements de cette édition, un travail autour des correspondances littéraires de Robert Doisneau, le grand photographe. Et deux comédiens seront là pour nous faire entendre les textes, François Morel et Eric Caravaca, et ils seront accompagnés à la musique par Bastien Lallemand. Et puis en toute fin de soirée, le concert littéraire, Gaëtan Roussel et Noémie Lovski pour une lecture musicale qui nous fera entendre des poèmes, des extraits de textes et puis des textes de chansons aussi de Gaëtan Roussel.
Plateau, retour en plateau pour l'émission spéciale des correspondances. Elle a été en résidence pendant plusieurs mois à Manosque et on l'a accueillie l'année dernière justement pendant l'édition des correspondances. C'est Alice Zeniter. Bonjour Alice.
Bonjour.
Ravie de vous retrouver ici même à la radio. Vous allez nous parler bien sûr de votre résidence pendant les correspondances, mais vous êtes venue accompagnée du cinéaste Raphaël Nil. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Nous allons parler avec lui de Fever. C'est un film que vous projetez ce soir, mais d'abord non, vos correspondances.
Samedi.
Demain, pardon. Demain
samedi matin à 11h au Lido.
Demain matin au Lido, Fever. Mais d'abord votre résidence. Comment ça s'est passé, Alice ?
C'était très très bien. J'ai eu l'occasion de voir Manosque à différents moments de l'année, puisque je suis venue une première fois en décembre, ensuite en février, et puis je suis revenue cet été. La différence entre la ville l'hiver et l'été, elle est quand même très très flagrante. Et puis j'ai énormément écrit, j'ai beaucoup marché dans les environs, j'ai vu la lavande en fleurs, j'ai fait beaucoup de choses et j'ai vraiment vraiment beaucoup travaillé dans le calme et le recueillement que tout écrivain recherche en résidence. J'ai mené pas mal d'ateliers avec les enfants, beaucoup les enfants de l'école internationale. On a fait de la fiction animalière, donc je me suis bien amusée aussi.
Vous avez été dans des communes aussi autour de Manosque, des communes connues comme Gréoux-les-Bains, mais aussi à Montjustin.
Oui, à Montjustin cet été, où j'ai fait une lecture musicale dans la petite église en ruine et puis sur les remparts du village, avec le soleil qui se couchait derrière. C'était une vision absolument magnifique et c'était un grand moment de plaisir. Et je crois que pour le public aussi, c'était très agréable.
Et vous savez qu'il y a de très beaux fantômes qui errent sur Montjustin et qui sont des poètes, des peintres, etc.
Absolument.
Photographes, il y a Henri Cartier-Bresson, ouais, qui est enterré à Montjustin. Enfin bref, une bonne expérience pour vous et le fruit de votre travail, on aura la possibilité de le lire bientôt.
Alors, il va y avoir deux fruits à ce travail. Le plus gros, donc, qui est mon prochain roman, sortira en septembre 2015. Ça va s'appeler Histoire de l'oubli. Et puis j'ai aussi écrit donc avec Raphaël qui est là et qui a fait une série de photos magnifiques. J'ai écrit un texte qui va accompagner ces photos et le livre qui s'appelle De qui aurais-je crainte sortira en février au Bec en l'air. Donc une entreprise un peu locale.
Oui, qui était sur Marseille maintenant, mais qui est ouais, née à Manosque, effectivement. Ouais. Alice, vous avez voulu venir aux correspondances avec Raphaël pour présenter un film. Vous l'avez travaillé ensemble, ce film, Fever.
Oui, on a coécrit le scénario ensemble pendant des années. Quand est-ce qu'on a commencé, Raphaël?
Il me semble en 2010. 2010, oui.
Voilà, et aujourd'hui le film est fini, Raphaël l'a réalisé l'année dernière, et donc voilà, c'est notre projet, notre premier projet commun. On espère qu'il y en aura d'autres, et on avait envie de venir le présenter ici.
Racontez-nous un petit peu Fever.
Alors Fever, c'est l'histoire de... Alors d'abord, c'est l'adaptation d'un roman de Leslie Kaplan, qui s'appelle Fever aussi, et c'est l'histoire de deux jeunes garçons, deux jeunes parisiens, qui s'ennuient un petit peu et puis qui un jour décident de tuer une femme et tuent une femme qu'ils ont choisie au hasard dans la rue. Et c'est les répercussions de cet acte sur leur vie.
C'est un film que vous avez produit vous-même. Comment ça s'est passé quand on veut faire un film et qu'on est jeune?
Alors ça, c'est Raphaël qui va en parler, puisque moi je suis surtout restée en écriture.
Oui, je l'ai produit avec un associé en fait. On a essayé pendant quelques années de le produire de manière classique, voilà, et on n'a pas réussi à trouver les financements. Et du coup, on a monté une maison de production et on l'a produit comme ça de manière assez sauvage.
De l'autoproduction, on connaît bien ça dans la musique, hein,
oui.
En radio notamment.
Oui, moi je trouve ça super d'ailleurs.
C'est une bonne chose, ça vous donne quand même une certaine liberté. Et par contre, c'est au niveau de la diffusion après que c'est plus délicat.
Exactement, et d'ailleurs là le film commence à circuler un peu dans les festivals. Et on est très heureux de voyager avec. J'étais là au Canada, en Allemagne, on va en Inde dans deux semaines. Et aujourd'hui à Manosque. Mais on ne sait pas encore exactement quand ni comment le film sortira, mais je pense qu'il sortira.
C'est un long métrage ?
Oui, c'est un long métrage. C'est mon premier long métrage. C'est une fiction.
Et sinon, vous venez, de la photographie, du cinéma même ?
Alors, c'est vrai, je suis photographe depuis une quinzaine d'années. Je joue de temps en temps au cinéma, mais je fais plutôt des petits rôles, des apparitions. Mais je suis photographe et je voulais être réalisateur depuis très longtemps, depuis enfant, mais je sais pas, ça s'est pas fait. Donc j'ai fait la photo, j'ai fait de la musique, j'ai fait d'autres choses. Et puis là, c'était le bon moment pour faire le film.
Et la littérature, c'est quoi pour vous ? Qu'est-ce que c'est comme... comme élément dans votre vie?
Non, mais moi, j'ai grandi entouré de livres, de dizaines de milliers de livres chez moi, parce que mon père est libraire anglais, et donc j'ai grandi parmi les livres, mais j'ai pas beaucoup lu. Je pense que j'ai fait un rejet des livres, et moi, je me suis passionné pour l'image, la photo notamment, et puis bien sûr le cinéma. J'ai eu un peu peur des livres pendant assez longtemps, maintenant moins. Cela dit, ça m'impressionne d'être entouré de autant d'écrivains ici à Manosque. Je trouve qu'ils parlent tous très bien. Et voilà, je pense que moi, mon travail, c'est de faire des images parce que je sais pas aligner trois phrases.
Alice Zeniter, c'est une belle complicité là qui est née entre vous deux. Vous vous connaissiez depuis longtemps ?
Non, en fait, on a commencé à travailler ensemble alors qu'on se connaissait pas. C'est Caroline Eliachev qui nous a mis en contact puisqu'elle avait lu la première version du scénario de Raphaël et elle venait de lire mon précédent livre Jusque dans nos bras, et elle trouvait que j'avais un sens des dialogues de jeunes, même si l'expression fait un peu bizarre. Et donc elle avait conseillé à Raphaël d'entrer en contact avec moi en pensant que je pourrais peut-être travailler un peu sur les dialogues. Et puis en fait, on a fait bien plus que ça. On a réécrit 17 versions du scénario pendant 2 ans. Mais on se connaissait absolument pas. C'est une rencontre arrangée en fait. C'est quasiment une rencontre sur Internet, mais qui a très bien tourné.
C'est mieux qu'une rencontre d'affaires entre nous.
Oui.
Mais bon, Raphaël, est-ce que vous pouvez imaginer Sombre Dimanche sur une pellicule ?
Alors oui, sans problème.
Le roman de
d'Alice Zeniter. Sans problème. Bon, il se trouve que je suis allé plusieurs fois à Budapest quand j'étais un peu plus jeune. Donc du coup, en lisant, j'avais déjà des images, mais je trouve que le style est assez cinématographique. Il y a quelque chose de, enfin, dans les livres d'Alice, il y a quelque chose de parfois très très comique, assez cocasse, des opilants, et puis parfois complètement dramatique.
Très sombre.
Oui, très très sombre, à la fois glauque et drôle. Et je pense que ça pourrait faire un très 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 beau film. Ouais.
Mais j'ai été contactée par un réalisateur hongrois, donc j'attends la suite.
Je suis jaloux.
on va voir, nous on croit que ce qu'on voit. C'est comme ça. Merci beaucoup à tous les deux, et on vous retrouve donc c'est demain à 11h, une projection à Jean le Bleu à Manosque.
Non, c'est au Lido.
Au Lido, à Manosque, une vraie salle de cinéma. Donc
exactement.
C'est une grande salle.
C'est une grande salle, il faut la remplir. Venez.
Et en même temps, on en profite pour saluer nos amis du Lido, William et toute son équipe qui font un travail remarquable ici à Manosque. Et en même temps, dans le cadre des correspondances. Je pense que la présidente des correspondances n'est pas étrangère à tout ça. Regina Chando qui a un bon lien avec le cinéma, tout le monde le sait ici. Merci à tous les deux, à très
François.
Bientôt, bon festival.
Merci beaucoup.
Retour aux correspondances, La Poste, Manosque, La Poste, et dans Manosque, La Poste, évidemment, il y a Manosque. On ne peut pas parler de Manosque sans parler de Jean Giono, et c'est l'objet de notre interview. J'ai le plaisir, grand plaisir d'accueillir le président de l'Association des Amis de Jean Giono, notre complice d'une émission célèbre sur Manosque, et Jean de Manosque, et c'est Jacques Méni. Bonjour Jacques.
Bonjour François.
Pourquoi Jean Giono? Parce que tout simplement, on est à Manosque, et parce que Giono a beaucoup écrit de lettres, et donc les correspondances, c'est assez logique que l'on puisse écouter du Jean Giono.
Ah oui, Giono a beaucoup écrit de lettres, mais sa correspondance est assez différente des correspondances d'écrivains, parce que c'est pas vraiment une correspondance littéraire, c'est souvent une correspondance où il répond dans les faits simplement. Il y a peu de considérations sur la littérature, sur les livres, sur son métier, etc. C'est vraiment une correspondance normal, je dirais, entre guillemets, mais dans laquelle surgissent régulièrement quand même des choses tout à fait passionnantes, où j'estime qu'il a écrit au moins 50 à 60 000 lettres dans sa vie.
À qui est-ce qu'il écrivait, Jacques?
À tout le monde, c'est-à-dire aussi bien à ses amis écrivains, qu'à ses éditeurs, qu'à sa famille, beaucoup de lettres à sa famille, j'en retrouve encore récemment, que à des artistes, mais c'était vraiment souvent pour répondre à une demande d'ailleurs, hein. Un artiste lui écrivait, donc bon, bah oui, venez cher ami, je vous recevrai volontiers. Souvent, ce sont des mots très, très, très brefs. Et il a écrit à ses lecteurs aussi. Il répondait, contrairement à ce qu'on croit, il répondait à énormément de lecteurs ou de jeunes écrivains qui lui écrivaient, qui lui envoyaient des manuscrits, etc. Claudie Hunsinger, je ne sais pas si elle est venue aux correspondances, Claudie, enfin, qui est publiée chez Grasset maintenant, qui est une amie, me dit, mais tu sais, quand j'avais 15 ans, j'écris à Giono, j'ai toujours sa lettre, etc., parce que je lui envoyais une petite nouvelle, oui.
Et donc, c'est quelqu'un qui a aussi utilisé son porte-plume, car il écrivait à la plume. Pour écrire, non pas des nouvelles, non pas des romans, non pas des poésies ou des pièces de théâtre même, mais...
Et des scénarios de films.
Mais des lettres. Et dans le cadre de ce Festival des correspondances, évidemment, centenaire de la guerre de 14 oblige, on revient sur un passé particulier de Jean Giono, c'est bien sûr la Grande Guerre, et puis il y a le comédien Lélio Ploton qui est avec nous. Bonjour Lélio.
Bonjour.
Lélio qu'on a pu apprécier pendant les rencontres Giono cet été, qui nous a fait des lectures remarquables. Jacques, vous avez choisi des lettres qu'a envoyé le poilu, entre guillemets, Jean Giono, depuis les tranchées.
À ses parents. C'est-à-dire qu'il a écrit à énormément de monde pendant la guerre, de sa famille, et y compris à sa future épouse, Élise Morin, qu'il épousera en 1920, et qui aussi a fait la connaissance pendant l'été 14, juste avant le début de la guerre. Et malheureusement, ces lettres-là, on n'en a quasiment pas. Par contre, on a 500 lettres, ou billets, ou cartes, envoyées à ses parents, qui ont été conservés, dont je vais commencer l'édition dans la revue Giono, donc que nous publions annuellement en fin d'année. Ces lettres sont tout à fait passionnantes, mais il faut un peu les remettre dans leur contexte. Ce sont des lettres où Giono présente à ses parents la guerre comme une espèce de partie de campagne. Je vais me balader, c'est la vie des bois. La vie des bois, quand les 8 jours qui vont suivre cette annonce, il part mener une vie sauvage dans les bois. C'est le moment où il est engagé dans une opération à Verdun, où vraiment là, il va vraiment être en première ligne et en prendre... plein à la tête du bruit et de la boue et des obus qui tombent de partout. On peut exactement... Alors, derrière chaque lettre, on met l'événement historique, et là, tout d'un coup, ça prend des perspectives assez, assez, assez étonnantes.
Il parlait du front à ses parents?
Très peu, très très peu, justement, parce que ses parents étaient âgés, comme vous savez, et ils l'ont eu tard, et fils unique, chouchouté, choyé, adoré par sa mère, etc. Donc, le but, c'était d'abord de les rassurer. Donc, quand il dit « je m'éloigne du front », ça veut dire qu'il s'en rapproche. Enfin, etc. Il y a tout un jeu comme ça. Et donc, par contre, ses parents savaient très bien ce qui se passait. Donc, quand il revenait ici en permission, il a raconté plus tard qu'il tenait quand même son père au courant, qu'il avait compris que leur mentir n'était pas la meilleure solution pour les rassurer. Mais c'est des lettres tout à fait passionnantes aussi, parce que ce ne sont plus déjà des lettres d'un personnage ordinaire. Je ne dis pas que c'est déjà les lettres d'un grand écrivain, mais c'est déjà des lettres écrites.
Et on voit poindre déjà le talent.
On voit poindre non seulement le talent d'écriture, le talent descriptif, on voit poindre un certain nombre de fantasmes et de choses qui vont nourrir son imaginaire et qui vont être les pilotis de son imaginaire de romancier. Il y a déjà des éléments qui surgissent là, qui affleurent. Et puis, il y a une plume déjà, incontestablement, pour décrire un paysage. Sa passion de la montagne, par exemple, se manifeste déjà. Sa phobie sa hantise des paysages dévastés, nus. Et évidemment, ça, il va en voir pendant la guerre. Mais on va les retrouver ensuite dans ses romans. C'est un personnage qui est en train de se construire. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il va vraiment commencer à écrire et à vouloir être écrivain. Juste au retour de la guerre.
C'est aussi peut-être, Jacques, excusez-moi, la première fois où Giono quitte véritablement Manosque pour une longue période.
Oui, c'est un roman d'éducation. Cette correspondance, c'est vraiment un récit d'éducation. Et on voit comment lui qui s'est appelé le voyageur immobile et qui en a fait un peu voyager pendant sa vie, du moins à l'étranger, a une espèce d'appétit, par exemple, pour visiter les églises, les monuments, les cathédrales. Chose d'ailleurs qui se retrouvera assez peu après dans sa vie. Mais là, il y a une espèce de besoin de découverte et surtout, il trouve tout intéressant, tout passionnant. Il voit passer les véhicules sur la voie sacrée, il dit « je suis comme si c'est devant un joli livre d'images ». Et il voit les poilus monter à Verdun et ça devient un joli livre d'images.
Et peut-être même redescendre après.
Oui.
Donc dans l'état qu'on devine.
Et donc il y a tout un regard qui se forme chez lui pendant cette guerre, dont on voit tous les affleurements dans cette correspondance, derrière les formules pour tranquilliser la famille, les parents, etc. Et c'est vraiment... elle n'a jamais été... édité d'abord, elle n'a jamais été étudiée finalement très en détail, elle a été vue mais très superficiellement je trouve par mes prédécesseurs et biographes de Giono, et là je veux vraiment lui donner toute sa valeur. Et c'est une opportunité, donc depuis 3 ans on a créé cette séquence des correspondances qui est dédiée à la correspondance de Giono. Et qui sont donnés dans les jardins de la maison de Giono, le Paraïs, montée des vraies richesses. Le samedi, à 11h, voilà, on a fait J de Giono, la correspondance J de Giono il y a 2 ans. Henry Miller, Giono l'année dernière. Cette année, évidemment, la correspondance de guerre.
On va écouter une première lettre interprétée, entre guillemets, par Lélio Ploton sur la sélection que vous avez faite. Et on va parler de cette sélection après, la manière dont vous avez procédé. Lélio, c'est à vous.
Le 12 janvier 1917. Mon cher vieux papa et ma petite maman chérie. J'ai reçu aujourd'hui votre lettre et j'ai appris avec une grande peine la nouvelle de la mort probable de Battarelle. Ce sort est commun à nous tous qui sommes ici. Il est douloureux de voir disparaître petit à petit tous les camarades de notre âge. J'avais espéré jusqu'à présent que les blessures que vous m'aviez annoncées n'étaient pas mortelles. Hélas, les destinées irrémédiables sont écrites et notre sort est par avance fixé. S'il vous arrive l'occasion de présenter mes condoléances à Madame Battarelle, n'y manquez pas. J'ai été désigné par mon colonel pour suivre les cours spéciaux de TSF. Je devais à cet effet me rendre à Vendeuil. Or, toute ma division doit se rendre après-demain au camp de Poilly pour effectuer des manœuvres. Ce changement de place va donc occasionner un changement de résidence pour l'école de TSF, et c'est seulement quand sa résidence sera définitivement arrêtée que je m'y rendrai. Vous pouvez être tranquille. De là, ma demande pour l'aviation sera toute faite, et mon poste sera un peu plus éloigné du danger. Vous semblez émettre des doutes sur mon bonheur ici. Je vous assure, mes deux vieux chéris, que le jour où j'irai à l'assaut, si j'y allais encore, mais je n'y vais plus, je vous le dirai. Par conséquent, lorsque je vous dis que je suis tranquille, c'est que je le suis. La preuve, c'est que je me suis fait photographier dans le fort, habillé en russe, et que si les obus tombaient, il y a des chances que j'aurais changé le programme. Vous recevrez sous peu cette photo. J'ai passé un jour de l'an très agréable. On a mangé de l'oie, des oranges, bu du champagne et fumé un cigare. Par conséquent, il n'y a rien à dire. Donc, tranquillité absolue sur mon compte. Le 140e va pour l'instant assez loin des obus pour se préparer. Grosse caresse de votre fils qui vous aime bien, Jean.
Tranquillité absolue, mais il enterre Raoul Battarel, qui était un de ses, collègues du collège.
Oui, c'était un camarade de collège, c'était le deuxième qui venait de mourir. Hein. Il y avait eu son grand ami d'enfance, Louis David, qui était déjà mort au printemps 16. Là, c'est en décembre 17 que Battarel décède. Avec Battarel, il y avait une vraie rivalité, parce que Battarel voulait devenir écrivain lui aussi. Et donc,
il raflait les prix de composition française,
voilà,
devant Giono.
Devant Giono, il avait le prix, et ça le rendait furieux. Et d'ailleurs, il est malheureux, mais il envoie des piques à Battarel sans arrêt, parce que Battarel publie dans le journal local, comme lui d'ailleurs, Giono publie déjà des poèmes pendant la guerre, et alors il trouve les poèmes de Battarel patriotiques et tout ça, absolument, il les fait voir, et dit, j'ai fait voir le texte de Battarel à mon lieutenant, il m'a dit, il faut être fou pour écrire des choses pareilles.
Comment est-ce que vous avez procédé, Jacques, pour choisir les textes? Je suppose qu'il y a beaucoup de lettres de Giono à ses parents dans cette période.
Ah ben, il y en a 500. En 1h15, 1h15, 1h20, j'ai surtout essayé de raconter quand même une histoire. Il y a des petits textes de transition pour donner quand même les faits. J'ai essayé quand même de mettre aussi les lettres qui me paraissaient les plus intéressantes sur le plan du rapport à la guerre, évidemment. Et parce qu'il y en a qui... Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on trouve déjà tout le personnage. Il est intéressé par ses vêtements, comme Giono le sera toute sa vie. C'est-à-dire que même son costume de poilu, il en donne la description. Il faut qu'il soit beau, il faut qu'il soit comme ci, il faut comme ça. Il se fait faire des chaussures et des jambières à Manosque par son père qui est cordonnier, mais aussi par des artisans locaux, etc. Il est très, on sent déjà le personnage très attentif à sa mise. On le sent très attentif à la nourriture. Alors ça, c'est constant. Aux jeunes filles, alors là vraiment on voit que de ce côté-là ça a été aussi une belle aventure, la guerre, parce que l'agent féminine ne nous est pas défavorable, dit-il en traversant l'Alsace.
C'est le charme des poilus, quoi.
Voilà, absolument. Et on voit bien quand même que c'est déjà écrit, c'est pas une lettre de poilu lambda, je veux dire, bon. Et puis il y a, par exemple, et puis c'est déjà le personnage du conteur. Et d'ailleurs, dans un extrait que j'aimerais que les lieux lisent maintenant, c'est tout à fait étonnant, parce que comme il se décrit au front, ça va être le sujet de son premier roman, Angélique, qui est l'histoire d'un trouvère du Moyen-Âge qui va de château en château dans la zone de la Drôme où lui-même a fait sa préparation militaire en 1915, Montségur, Saint-Paul-des-Trois-Châteaux, Suze-la-Rousse, etc. C'est là où il va situer son premier roman médiéval, inachevé, qui a été publié après sa mort. Et c'est exactement ce qu'il décrit de lui pendant la guerre avec ses copains poilus.
On va écouter cette lettre lue par Lélio Ploton. On va vous remercier tous les deux. On vous retrouve demain 11h au Paraïs.
11h sur la terrasse des jardins, à 11h la lecture.
Donc, avec un soleil magnifique et puis
absolument.
Les lectures de correspondances. Merci à tous les deux. Merci aussi Lélio en prévision de votre lecture.
Janvier 17. Depuis 2 ou 3 jours, il fait 12 degrés en dessous de zéro le jour et moins 20 la nuit. Le vin gèle dans l'écart. Heureusement que nous avons un excellent cantonnement où il y a 4 ou 5 mètres de paille. La nuit, on s'y enfonce et on y disparaît. Cela donne une chaleur très douce et aussi agréable que celle d'un lit. Mais le matin, les souliers sont gelés et on est obligé d'allumer un grand feu. Malgré cela, je puis vous assurer, mon cher vieux papa et ma petite maman, que le sourire ne me quitte jamais. Pendant la marche, quand on a commencé à être fatigué, c'est moi qui entraînais la section en leur chantant « Quand on est mort, on est foutu ». Et pendant quelque temps, on oubliait ses jambes et ses pieds. On m'a surnommé le sourire éternel. De même, le soir, au cantonnement, enfoui dans notre paille, c'est encore Giono qui intéresse ses collègues par des contes et des histoires. Enfin, c'est le poilu universel et il n'est pas d'arrivage de paquets somptueux sans que Giono ne soit gracieusement invité à en prélever sa part. Je suis un peu comme ces trouvères du Moyen-Âge qui suivaient les hommes d'armes pour leur chanter des chansons de gestes, propres à les enthousiasmer. Je fais la guerre en amateur. Donc mes deux vieux chéris qui êtes là-bas, là-bas, comme le dit la chanson, n'ayez pas le cafard sans moi. Je vous raconterai une petite histoire. N'oubliez pas ma pipe droite. la grosse. Grosse caresse du fiston.
Retour en plateau sur Fréquence Mistral. Vous savez que depuis le début des correspondances, nous avons non pas créé le off, mais le plus ici sur Fréquence Mistral. Et le plus aujourd'hui, il est consacré à des amis des correspondances et ô combien précieux. C'est tout simplement le potager moderne. Le potager moderne au bistrot des correspondances. C'est une recette qui demande beaucoup de travail, mais sa réussite est assurée. Le petit pois sous toutes ses formes, un ragoût avant-gardiste. Petit pois en librairie. C'est un plat typiquement manosquin qu'il faut vraiment feuilleter. Le potager moderne, recette élaborée dans le Haut-Var à Espigoul, très exactement. Marmite joliment rurale ou mijote et se lit cinéma, littérature, cuisine, inventif et convivial. Attention, il faut tout de même 4 mains pour réussir ce mets de choix. Écoutons une recette radiophonique par Fanfi, tantôt jardinier, cuisinier, autrefois libraire, mais assurément amoureux des livres et des correspondances.
Le plus des correspondances. Deux personnes.
Moi, Jean-François Pédalbin, on m'appelle Fanfi, et Véro. Ma femme est la personne avec qui je travaille depuis une dizaine d'années.
Du petit pois à la cuisine.
Du petit pois à la cuisine, Kumpa. On était libraire à Manosque et puis on a décidé de changer de vie et on est devenu traiteur. Ça a été assez facile puisqu'on était déjà organisateur d'événements, on travaillait avec des associations, on faisait à manger pour... déjà pas mal de personnes, et puis on s'est aperçu que on avait envie de changer de vie, et c'était assez facile, du petit pois au petit pois, il n'y a eu qu'un pas, et puis on a continué à travailler avec les gens avec qui on travaillait, le milieu associatif, manosquin, la DLVA, et puis plein d'autres personnes qui nous ont découvert.
De la cuisine aux correspondances.
C'est en fait des rencontres. On était donc libraire, on a décidé d'animer un petit peu la galerie de la MJC en créant un bistrot des correspondances. En tant que libraire, on faisait le service, le bar, et on vendait aussi des livres. Cette petite aventure a pris un petit peu d'ampleur, et maintenant qu'on est traiteur et qu'on fait à manger et que c'est notre métier, on fait à manger pour le Festival des correspondances. Et c'est la même équipe, les mêmes amis, et on travaille tous ensemble depuis maintenant 6 ans. Et je crois que ça se passe plutôt pas mal.
De belles rencontres derrière et devant ce comptoir ?
Devant et derrière, en effet, puisque le principe, quand même, il faut rappeler que les correspondances, c'est aussi une association. Donc il y a des bénévoles, il y a des... Il y a des gens qui gravitent autour, et c'est l'avantage de ce festival qui est à taille humaine, c'est que dans ce bistrot des correspondances se rencontrent auteurs, bénévoles, cuistots, personnels de la MJC, publics, et on peut retrouver derrière le bar un auteur qui vous sert une bière et avec qui vous pouvez discuter, et on peut en trouver un autre de l'autre côté du bar, jusqu'à ce que tout le monde se mêle dans des conversations et des rires. Et ce qui est intéressant, c'est que il n'y a pas de star system ni de starisation des personnes, et que tout le monde est au même niveau, avec, je pense, un seul but, un seul credo, c'est l'amour de la littérature et du livre.
Une anecdote des années précédentes.
Alors, on tirera un trait sur toutes celles qui sont censurées, parce que quand on est derrière un bar jusqu'à tôt le matin, des anecdotes, il y en a plein. Mais, enfin, c'est pour la boutade, mais vous imaginez bien que c'est quand même un festival, c'est dans le festival il y a fête, c'est... ce qui est vraiment, je trouve, sans avoir d'anecdotes précises, qui est vraiment extraordinaire, c'est de pouvoir côtoyer des gens qui créent et qui sont sur la scène de la littéraire nationale, avec qui on peut manger un morceau, boire un coup sur un coin de table, discuter, faire des dessins... et bah, refaire un petit peu le monde de temps en temps. Et j'ai quand même si une petite anecdote, c'est que Mathias Hénard, qui est habitué de ce festival, voulait absolument savoir comment je plantais mes pommes de terre, parce qu'il voulait lui aussi en planter dans la ferme de ses parents. Voilà, ça peut être marrant, mais souvent on s'aperçoit que les auteurs qu'on croit intouchables s'intéressent plus aux choses du présent et du commun que ce qu'on peut croire.
Votre livre préféré?
Alors, si c'est de cette année, je ne pourrais pas en citer parce que nous avons beaucoup travaillé et à la préparation de ce festival et toute l'année. Donc, je n'ai pas lu de roman de cette année. Par contre, je peux vous citer quelques auteurs que je connais et qui viennent depuis plusieurs années, qui sont réinvités cette année, que je suis et que j'aime, notamment Joyce Orman, Arnaud Catherine, qui est notre barman préféré, et Olivier Adam qui revient cette année.
Et votre recette préférée?
Ma recette préférée, c'est pas vraiment une recette. Je suis désolé de ne vous répondre que par pirouette, mais l'idée du potager moderne et de notre façon de travailler et de cuisiner, c'est de travailler avec des produits du terroir, des produits de proximité. Nous cultivons nous-mêmes nos propres légumes dans notre jardin, donc on va dire que ma recette préférée, c'est celle que je fais avec mes propres produits.
Et Fanfi écrit:
d'un poids à l'autre, d'un pas dans l'autre, une aventure à deux, quatre mains, deux cerveaux, pour une seule chose, être là, vraiment là, parmi les gens, peu importe leur goût, l'essentiel c'est de faire.
Bonjour Simonetta Greggio.
Bonjour.
Ravi de vous recevoir une deuxième fois ici à Fréquence Mistral. On va parler évidemment de votre livre « Les nouveaux monstres », un titre de roman en clin d'œil au cinéma italien et à Dino Risi ou Ettore Scola. « Les nouveaux monstres » nous emmènent en Italie de 1978 à nos jours. Pourquoi 1978? Car le 9 mai, le pays horrifié apprend l'exécution du chef de la démocratie chrétienne, Aldo Moro. On retrouve son coffre dans le coffre d'une 4L. Il a été enlevé 55 jours avant, puis assassiné par les Brigades Rouges. Mouvance d'extrême gauche radicale et violente, l'instabilité politique s'installe et la terreur aussi. Peur des attentats, il y en aura, et des révélations, il y en aura aussi. Et puis, de nos jours, 35 ans plus tard, un sombre personnage a conduit l'Italie dans un gouffre économique et social où les arguments sous la ceinture et les soirées bunga bunga tenaient lieu de programmes politiques. Cynique et manipulateur, Silvio Berlusconi a régné sur l'Italie pendant 20 ans en tissant un réseau financier et médiatique à son service. Un roman documenté et éclairant pour bien des lecteurs, mais aussi une histoire, celle de trois jeunes gens de 1978 qui intrigue Aria, la fille de deux d'entre eux. Elle est journaliste et à la manie des enquêtes sur la mafia, les Brigades Rouges, Berlusconi aussi, et il y a du travail, mais son parcours personnel, son histoire familiale vont aussi l'accaparer. Simonetta Greggio, ces nouveaux monstres sont réels et pourtant on a du mal à croire à une histoire fictive.
Quel joli résumé vous avez fait, ça, c'était vraiment très, très bien fait, parce que le livre est très compliqué, très exigeant, écrit en plusieurs strates. Les nouveaux monstres, c'est pas seulement les Berlusconi et autres Capicupola, Totorina, mais c'est aussi ces comme le dit le mot, d'ailleurs, monstre, ça vient de montrer, c'est aussi les monstres du côté du bien, du côté de la lumière, du côté de la justice, donc des juges comme Falcone et Borsellino qui sont morts pour donner un espoir à cette Italie qui a été tant maltraitée, mais bien avant déjà Berlusconi, puisque Berlusconi a trouvé, ça a été the right man in the right moment, ça a été vraiment l'homme providentiel pour une Italie qui était déjà prête à l'accueillir. Et d'ailleurs, je le raconte dans le roman précédent, donc Dolce Vita, qui va des années 50 aux années 78, dont nous avons parlé ici avec
jusqu'au
vous.
Jusqu'au 9 mai.
Et qui s'arrête donc, effectivement, au moment de non-retour à l'assassinat d'Aldo Moro.
Ça a été quand même un traumatisme terrible pour l'Italie, le chef de la démocratie chrétienne qui est assassiné et qu'on retrouve comme un bandit vulgairement ramassé dans le coffre d'une voiture.
Oui, et puis souvenez-vous, en 78, on avait encore quasiment une télé en noir et blanc. C'était pas ce monde d'aujourd'hui avec le djihad qui décapite des gens en direct. Non, c'était vraiment un monde qui était beaucoup plus, surtout en Italie, beaucoup plus perbeniste, beaucoup plus gris et blanc, beaucoup plus catholique. C'était un monde un peu de bonnes intentions et de bons sentiments, même si ce n'était pas toujours le cas, même si c'est ce qu'on voyait, mais qui n'était pas forcément ce qu'il y avait derrière. Donc cet assassinat a été le moment où l'Italie est passée du noir et blanc au rouge. Ce n'était pas la couleur, c'était vraiment du rouge.
Avec les brigades rouges en plus qui ont laissé des traces terribles, aussi bien en Italie d'ailleurs qu'avec des mouvances en Allemagne et en France.
Oui,
également.
Alors c'est ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est j'ai été voir il n'y a pas longtemps un documentaire d'un Français sur les brigades rouges en Italie, et il y avait là un peu de l'intelligentsia parisienne. On dirait que ces hommes, ces femmes, mais surtout ces hommes, regrettent quelque part de ne pas avoir fait cette révolution, et moi ça m'a sidérée, et ça m'a rendue folle de rage de voir qu'encore maintenant il reste un côté simpliste dans la vision de toutes ces histoires qui nous ont, nous, totalement bouleversées. Et c'est comme si les bons étaient vaguement d'un côté et les mauvais vaguement de l'autre. Et c'est pas aussi simple que ça. Et j'en ai marre de voir que on ne comprend toujours rien. Alors, que ça soit en France, bon, je comprends, ce n'est pas notre histoire française ou votre histoire française, mais que ça se passe aussi en Italie, ça me rend vraiment...
Et je l'ai dit aussi, c'est un livre qui nous éclaire, nous, non-italiens, sur la situation de l'Italie, aussi bien économique que sociale, avec notamment toute la mafia, la mainmise de la mafia sur cette société, aussi bien en Sicile que dans le nord de l'Italie, avec tous ces attentats qui ont eu lieu, avec tous ces non-dits dans ce pays, la loi de l'omerta, évidemment. Et puis, il y a un petit état aussi particulier que vous égratignez gentiment, qui s'appelle le Vatican.
Gentiment que ça.
C'est de l'humour, Simonetta.
Ah bon, zut.
Le Vatican qui, par exemple, a une banque. Alors on se demande pourquoi.
L'IOR.
Pourquoi un dogme comme l'Église catholique possède une banque, et puis on se rend compte qu'effectivement, ce sont des banquiers, donc ça n'a rien à voir avec la charité chrétienne.
Parce que le message du Christ est une chose et l'Église des hommes en est une autre. Moi, je suis profondément croyante. De devoir enquêter sur les IOR et les sales histoires du Vatican, ça n'a pas du tout égratigné ma foi. Moi je me sens très christique, mais je ne suis pas du tout dans leurs histoires historiettes et horribles mystères et secrets liés à l'argent et au sale argent, parce que pendant très longtemps, cette banque, elle avait plus blanc que blanc l'argent de la mafia, l'argent de la corruption, l'argent de la prostitution, l'argent de la drogue. Je veux dire, qui pionnait, comme on dit chez nous. C'était on veut-tu, en voilà.
Et puis il y a l'espoir aussi, l'espoir qui s'appelle François Francesco, évidemment. On va voir.
La première chose qu'il a fait, ça a été quand même de ôter de sa place Bertone, qui était le secrétaire particulier de Ratzinger, qui était un peu l'entonnoir, si vous voulez. Enfin, tout ce qui arrivait, devait arriver au pape passait par lui, et donc c'était un filtre extraordinaire. C'était un homme qui avait un pouvoir noir terrible, richissime. Je crois qu'il a 600 mètres carrés à Rome, dans un attique absolument sublime, et il s'est fait taper sur les doigts après sa déposition du pape, par le pape, qui a dit, écoutez, moi je vis en 50 mètres carrés avec les deux sœurs qui viennent faire le ménage chez moi, il n'y a pas de raison que vous ayez autant d'espace et d'argent, ça n'est pas conséquent avec le message que nous devons porter. Donc, il y a une vraie guerre.
Le pape de l'Église catholique, qui est un jésuite, et l'un des personnages principaux de votre roman est aussi un jésuite. Il y a un rapport très particulier, des échanges épistolaires, ça tombe bien pour les correspondances, entre la jeune journaliste et ce jésuite, Saverio, avec des moments croustillants de réflexion, des moments où il faut lire entre les lignes, c'est assez compliqué, il y a une complicité qui se crée également, et puis on va revenir aussi à quelques personnages célèbres en Italie, évidemment autour de Silvio Berlusconi, mais pas forcément des hommes politiques ou des hommes du milieu d'affaires ou médiatiques. Je veux parler par exemple de Valeria, vous le savez. C'est ça. Pardon, Valeria, non. C'est Veronica
Lario.
Voilà, c'est son épouse qui a divorcé de Silvio Berlusconi parce qu'il a osé dire, en voyant une jolie fille, « Ah, si j'étais pas marié, je t'aurais épousé. » Enfin bref, un goujat, un monstre.
Mais ça, si
véritable.
C'était que ça. Si c'était
il n'y avait pas que ça, effectivement. Et il y a quelques lignes dans votre livre que je vais lire, là, qui sont, me semble-t-il, révélatrices. Veronica Cendrillon a obtenu 3 millions d'euros mensuels de pension alimentaire, par la suite réduit de moitié, ce qui lui fait tout de même 50 000 euros par jour. On doute que cet argent fasse son bonheur, même s'il peut panser quelques plaies. Son histoire est celle mélancolique d'une fille belle et charmante qui a payé de son existence entière son rêve amoureux. N'est-ce pas aussi ce qui est arrivé à l'Italie ?
Ah oui, on s'est fait avoir complètement. On s'est fait complètement avoir par un beau parleur qui aurait vendu des congélateurs au pôle Nord. C'est un type qui a commencé sa carrière comme chanteur dans les croisières, donc en faisant de l'œil aux petites vieilles aux cheveux violets, et puis qui faisait du porte-à-porte pour vendre des balais brosses. Donc mais il avait cette chance que son père était un banquier assez, on va dire, tranquille dans sa petite banque. Il avait juste les têtes de file de la mafia. Donc l'argent des mafieux est arrivé comme par magie sur le compte du fils du directeur, donc de Silvio Berlusconi, qui avec mais vraiment c'était des valises entières d'argent, a pu construire une ville entière en 78, donc à partir de 75 jusqu'à 78, qui était Milano 2, et où il y avait déjà la première télé
de Berlusconi,
voilà.
Et le début, la première pierre de son empire,
voilà.
en gros.
Ouais.
Merci beaucoup Simonetta Greggio. Je rappelle donc Les Nouveaux Monstres, 1978-2014, c'est paru chez Stock, c'est ça. Et vous êtes présente à Manosque pour les correspondances. Vous avez deux rendez-vous importants.
Bah, tout à l'heure, je serai au sieste littéraire.
De Bastien Allemand.
Voilà, j'ai écrit un texte exprès comme je l'avais fait il y a 2 ans. Et beaucoup, beaucoup plus gai cette fois-ci, j'espère.
C'est bien.
Avec beaucoup plus d'espoir. Et puis tout à l'heure, à 16h30, avec Olivier Adam. Voilà.
Sur la place de l'Hôtel de Ville,
voilà.
Je crois. Merci encore, Véronica. Et puis dans un instant...
Véronica, comme Lario.
Oh non, quelle horreur, quelle horreur. Simonetta, non, c'est presque une insulte en plus.
Oh non, la pauvre, non, la, je vous
assure. C'est vrai, il faut la plaindre. Merci encore, Simonetta.
Merci.
À très bientôt. Dans un instant, on va écouter, et j'aurai le plaisir d'accueillir Cécile Vajrot. Softly with his song, killing me softly. Roberta Flack, Killing Me Softly with a Song. Bonjour, Cécile Vachbrot.
Bonjour.
Ravie de vous accueillir pour parler avec vous littérature, mais parler aussi musique, car la musique est très présente dans votre livre Total Eclipse, qui est édité par Christian Bourgois. Roman étrange et introspectif où la part de la chanson, ou plutôt des chansons, des images, des souvenirs et de l'amour est mêlée, souvent autour d'un café dans un bar chaleureux, un peu dans une chambre intime, un peu aussi dans la rue et quelquefois dans une galerie où la narratrice prépare une exposition de photos. Photos elles aussi étranges, une silhouette masculine de dos, elle n'est pas manosquine, qui laisse libre cours à l'imagination du visiteur et a séduit la femme photographe. Ce livre est une histoire d'images et de sons, nous y reviendrons, mais il est aussi une belle histoire d'amour, un amour impensable, inaccessible, espéré, rêvé, total. Cécile Vachbrot, comment est née l'idée de Total Eclipse ?
L'idée est née, ça faisait pas mal d'années que j'avais envie d'écrire un roman autour de chansons et je savais pas trop comment faire en fait parce que enfin j'imagine comme beaucoup de gens les chansons m'accompagnent à différents moments de ma vie et voilà donc ce roman en fait est le quatrième d'un cycle qui s'appelle Haute Mer et dans lequel chaque roman tournent autour d'un art différent. Ils peuvent se lire indépendamment les uns des autres. Et voilà, j'ai pensé que c'était l'occasion de l'écrire, ce roman autour de chansons. Et comme vous avez dit, la narratrice est photographe, ce qui permet d'aborder deux visions à la fois de l'enregistrement, en fait. L'enregistrement du son et l'enregistrement de l'image.
Parce que chaque chanson, évidemment, est liée à des souvenirs, évidemment, est liée à des époques, mais en même temps, et on sent poindre là toute votre culture, Cécile, on sent qu'il y a des explications à donner sur ces chansons. Par exemple, quand vous parlez de Bob Dylan et John Baez, eh bien, on a une explication qui vient agrémenter ces deux personnalités. Quand vous parlez d'Amy Winehouse, il y a aussi un côté un petit peu journalistique et en même temps chronique musicale qui apparaît. Il y a comme ça aussi Bonnie Tyler, il y a les Pink Floyd, évidemment Leonard Cohen aussi, alors là, sur l'une des plus belles chansons de Leonard Cohen.
Le fameux Blue Raincoat. Il y a tellement de chansons de Leonard Cohen que j'aurais pu choisir.
Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, vous le savez, puisqu'à
oui, il y a un nouvel
80
album,
ans, il a sorti un album magnifique.
Ouais. Oui, et puis il a toujours une très belle voix. Mais celle-là me touche, enfin il y en a d'autres qui me touchent vraiment beaucoup, mais particulièrement parce que ça décrit une belle situation en fait entre... Moi j'écoute toujours les paroles des chansons, même si évidemment la musique est extrêmement importante. Et donc un trio cette chanson elle est sous forme de lettres, ce qui va bien avec les correspondances, donc lettres que Leonard Cohen c'est bien Leonard Cohen puisqu'il y a la signature à la fin, c'est L. Cohen, écrit à un ami, et cet ami a eu une histoire avec sa compagne, avec la compagne de Leonard Cohen, et c'est, je sais pas, une façon très belle de parler d'amour, de parler de liberté et d'essayer d'exclure tout sentiment de possessivité, de jalousie.
Alors c'est votre héroïne justement qui est amoureuse de cette silhouette au départ, puis après au fur et à mesure qui fait la connaissance de ce personnage, qui se souvient aussi d'un poète hongrois qui l'a complètement charmé, qui l'a aveuglé. C'est une quête en fait, et en même temps avec un côté artistique puisqu'elle va faire une exposition photo de cette silhouette vue de dos qu'il a emballée quoi.
Oui, c'est-à-dire que c'est quelqu'un au début du roman, on l'apprend à un moment où elle pensait avoir fait un trait sur les sentiments et puis ne se consacrer qu'à son travail et puis elle est prise par surprise par une apparition, on peut dire, dans ce café où elle a l'habitude d'aller, d'un homme un jour de pluie comme ça qui apparaît tout ruisselant de pluie et... elle prend prétexte au début de son activité, de son métier de photographe pour obtenir un rendez-vous avec lui. Mais ce qui la guide au départ, c'est pas du tout la photo.
C'est la séduction.
Voilà, totalement. Et donc, voilà, il se passe des choses entre eux, mais petit à petit, les choses se retournent parce que lui est insaisissable. Elle essaye de saisir l'insaisissabilité à travers la photo. Et finalement, on peut se demander qui utilise qui à la fin.
Elle en est à tel point qu'elle va quitter brutalement, brusquement, l'endroit où il y a un vernissage qui se fait et qui est très particulier, très important pour elle dans sa carrière, tout simplement parce que l'inconnu vu de dos apparaît et il faut absolument le rejoindre parce que là c'est l'appel de l'amour quoi.
C'est ça, il y a une espèce d'appel du corps ou de la présence qui fait que rien n'existe plus en dehors de ça.
Un très beau roman à lire et en même temps il y a un côté introspectif aussi qui est intéressant. Il faut arriver à lire entre les lignes, on aime bien faire ça aussi pendant les correspondances de Manos. Cécile Vachbrot, c'est la première fois que vous venez aux correspondances ?
Oui, c'est la première fois.
Votre sentiment ou votre opinion, votre première réaction sur ce festival ?
Y a une atmosphère très sympathique et puis une diversité aussi. Ça, c'est très agréable. Et moi, ce qui m'impressionne, en fait, c'est le public, c'est-à-dire la masse de personnes qui sont là. Et on a l'impression que le festival investit toute la ville, et pas seulement la ville, mais les habitants de la ville, donc c'est très très frappant.
C'est une bonne chose aussi que les habitants de la ville puissent un peu voir sur scène des hommes de lettres, des écrivains, des comédiens, comme ce soir, comme les spectacles qui sont proposés. Vous êtes vous-même, Cécile, en représentation tout à l'heure, vous avez une table ronde, quelque chose ?
J'ai un dialogue, oui, avec Jean-Hubert Gaillot, c'est à 15h, je ne sais plus, c'est place de l'hôtel de ville ou une autre place.
Place de l'Hôtel de Ville.
Oui, c'est ça.
Non, c'est la place Marcel Pagnol.
Alors, Marcel Pagnol.
Quelqu'un que vous devez connaître d'ailleurs un petit peu.
Alors, je l'ai lu autrefois, oui.
Ça me fend le cœur, enfin bref.
J'ai fait la sieste hier.
Vous avez apprécié ?
Oui, c'était agréable. Oui. Avec des chansons, justement.
Des belles chansons, Bastien Lallemand et puis Gilles Kaplan, J.P. Nataf, etc. Merci encore, Cécile Vachbrot. Je vais vous faire un petit plaisir, on va écouter Léonard Cohen.
Ah, très bien.
Pour clore cette émission. Bon festival à vous, et puis dans un instant, c'est tout simplement les informations de RFI sur Fréquence Mistral. À bientôt.
Merci.
Et merci Agathe.
It's 4 in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your little house deep in the desert. You're living for nothing now. I hope you're keeping some kind of record. Yes, and Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night that you planned to go clear.